Bac FM, il est 18h30. Comme tous les mardis, nous consacrons notre antenne au mois de l'inclusion à 18h30. Et pour cette deuxième édition, eh bien, je reçois Corinne Charbonnier. On va évoquer ensemble les actions de l'ADAPEI dans la Nièvre. Bonjour Corinne Charbonnier.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à vous de venir dans nos studios sur Bac FM. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ADAPEI de la Nièvre, vous êtes présidente aussi de l'UNAPEI Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes aussi dans le conseil de l'UNAPEI nationale, c'est ça?
Absolument. Ça veut dire les trois niveaux, qui sont fortement différents, parce que l'impact et l'engagement n'est pas le même. Si l'engagement profond reste identifiable facilement dans la défense des droits des personnes en situation de handicap, l'implication territoriale et le niveau n'est pas le même pour le travail que j'effectue en tout état de cause.
Il y a quand même certaines concordances, j'imagine, surtout dans les missions. Oui. On va rappeler d'ailleurs ce qu'est l'ADAPEI avant tout.
Alors l'ADAPEI de la Nièvre, maintenant on ne décline plus le mot ADAPEI parce que l'enfance inadaptée a créé des problèmes. Donc ça reste un terme, on dit ADAPEI globalement. Donc on accompagne des personnes en situation de handicap mental avec du polyhandicap associé. 500 personnes en situation de handicap sont accompagnées sur le territoire de la Nièvre, allant de la petite enfance depuis l'ouverture de la crèche en septembre 2024 de cette année, jusqu'au grand âge évidemment, même si j'évoquerai un peu plus tard les carences que nous rencontrons. Nous accompagnons donc 500 personnes, 500 salariés sur 30 établissements environ. Avec évidemment, comme je le rappelais à plusieurs reprises, un conseil d'administration entièrement bénévole. Oui. Ma présidence qui l'est aussi et qui est bénévole sur le territoire, mais aussi bénévole à la région et bénévole au national.
Vous évoquez la crèche qui est ouverte là en septembre 2024.
Oui, le 2 septembre, exactement.
Je me rappelle avoir parlé d'un restaurant aussi, peut-être, qui était
en projet.
Il l'a ouvert hier,
mon
voilà.
Mon cher ami, il l'a ouvert hier.
C'est ça, mais je savais qu'il avait ouvert récemment, qu'il devait ouvrir dans les jours à venir. Un petit mot, peut-être, d'ailleurs, sur ce beau projet.
Oui, alors, un petit mot, en fait, cela s'inscrit dans un projet global d'accompagnement et d'inclusion. Et souvent, ça me gêne un petit peu de dire ma inclusion, parce que pour moi, l'inclusion, elle est de naissance, de facto. C'est-à-dire que les gens sont inclus, naissent libres, égaux en dignité et en droit à leur naissance. Donc dire qu'on inclut les personnes, c'est de fait les exclure fondamentalement.
Ça ne devrait pas être le cas de base. Enfin, ça ne devrait pas
votre analyse
être une obligation, du moins.
Non, ça ne devrait pas être une obligation, voilà. Ça devrait être normal. Mais on se rend compte qu'on est dans l'obligation de renforcer ça, parce que la difficulté d'accompagnement est finalement intrinsèque aux différences des personnes et que l'acceptation n'est pas encore là, la résilience non plus, et que ces personnes sont souvent éloignées de l'emploi, de la culture, de l'accompagnement globalement. Donc le projet dont vous parliez en amont, c'est un projet d'espace inclusif Colbert qui a été initié il y a plusieurs années. En fait, il a été pensé avec le conseil d'administration depuis plus de 4 ans pour rejoindre tous les spectres de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire pour réagir en système et en mode de parcours. C'est-à-dire de la naissance jusqu'au travail, à l'autonomie, et ensuite, ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire à l'accompagnement de fait de vie que nous faisons au sein de nos établissements, mais où nous n'avons pas encore d'accompagnement type ADAPEI. Moi, ça ne me gêne pas si c'est d'autres établissements, au contraire, je veux être rapproché des autres.
Oui, bien sûr,
pouvoir
ça peut être
offrir,
des collaborations.
Absolument, des collaborations pour pouvoir offrir quelque chose de digne pour les personnes en situation de handicap. Mais par là même, avec ce projet Colbert, nous avons initié ça, qui était très novateur sur la Nièvre, accompagner des petits en situation de handicap, avec donc 12 équivalents temps plein. On est à 18 en file active.
D'accord.
Donc on a 6 enfants en situation de handicap avec un accompagnement spécifique. Et le reste d'enfants, alors entre guillemets 6 qui sont pas en situation de handicap, on va dire. J'aime pas dire normal, c'est un mot pour moi qui n'a pas de sens parce que personne n'est normal.
Ce sont des personnes du moins valides.
Même pas forcément, parce que le handicap revêt divers aspects. Ça peut être un handicap moteur, un handicap physique, un handicap intellectuel. Donc le handicap a tellement un large spectre qu'on ne peut pas dire c'est valide ou pas valide, parce que la validité, ce serait que l'iceberg émergé du handicap que l'on peut rencontrer. En fait, les personnes en fauteuil, c'est presque, je dirais, souvent, alors je ne dois pas dire ça parce que j'ai été confrontée ce midi avec un cas fort particulier au restaurant et qui m'a beaucoup émue et je pense qu'effectivement, la validité n'est pas l'unique handicap. Mmh, c'est un handicap visible, mais on a des gens en handicap intellectuel ou,
oui, bien sûr, tout à fait.
Et qui ne sont pas visibles et qui ont besoin d'aide aussi. Donc, on couvre le maximum de handicap. En tous les cas, on essaye. Je ne détiens pas la vérité, ça c'est une évidence.
Ça, c'est pour l'ADAPI. Il y a l'UNAPI.
Alors, l'UNAPI, ouais, l'UNAPI région.
C'est quoi la concordance entre les deux ?
Alors, la concordance, finalement, c'est l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais mon rôle est très différent. C'est-à-dire que sur le territoire, j'ai un rôle vraiment très actif, terrain. Sur le plan de l'UNAPI Bourgogne-Franche-Comté, j'ai un rôle de coopération et de coordination, c'est-à-dire de mettre ensemble les 18 associations de la Bourgogne-Franche-Comté pour leur permettre d'accompagner au mieux les personnes dans leur structure propre. Donc, je n'ai absolument aucun pouvoir, et je ne souhaite pas en avoir, d'ailleurs, il ne le faut pas, sur les personnes qui accompagnent, en tous les cas, sur les présidents et leurs directeurs généraux. On essaye de mettre en concordance et en lien des opérations qui sont menées par différentes associations pour permettre l'évolution vers un regard plus inclusif et vers un travail de meilleure qualité pour l'accompagnement.
C'est des missions, surtout, que vous avez en commun, en fait.
Des missions et, évidemment, un plaidoyer commun, hein, qui est le plaidoyer de la défense fondamentale des droits des personnes en situation de handicap, qui reste quand même très importante, cette défense, parce que les droits sont bafoués dans tous les domaines, quels qu'ils soient.
Vous n'aimez pas le terme inclusion, mais on va être obligé de le répéter.
Mais je le sais, mais vous savez que j'ai ouvert l'année dernière ce mois de l'inclusion. Et il faut savoir que inclusion, ouverture et lien social sont les maîtres mots de notre projet associatif de l'ADAPI qui se termine là. L'inclusion, c'est un mot, et après avoir y réfléchi, réfléchi à ce terme, et notamment avec des philosophes, on s'est bien rendu compte quand même que c'était pas normal de dire l'inclusion. Ça voulait dire que, par essence, on excluait les personnes, ce qui n'est absolument pas notre objectif. Mais c'est-à-dire leur faire participer et leur permettre d'accéder à tous les droits et à toutes les possibilités qu'offre la société pour un citoyen lambda.
Ce mot de l'inclusion, pourquoi il est important ? Quelle importance il a, que ce soit pour l'ADAPI, que ce soit pour l'UNAPI, que ce soit pour votre personne en général, sans forcément vos fonctions ?
Pour moi, en fait, il est important. Je me mets en retraite de la personne que je représente à l'ADAPI, à l'UNAPI, en tant que maman d'enfants en situation de handicap, et en tant que personne convaincue de la défense des droits dans leur globalité. Donc ça reste, je dirais, un cheminement très humaniste sur l'accompagnement des personnes vulnérables, handicapées ou pas, c'est-à-dire aussi les personnes âgées, les personnes qui ont été accidentées par des mauvais sorts de la vie. Donc cet engagement, il est profond et il est global. Je ressens finalement un énorme espoir dans le travail sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Un énorme espoir quand on met en avant la capacité de se dire on peut permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir une vie meilleure, plus aboutie, plus heureuse et une vie dans la ville, au cœur de ville et en tant que citoyen à part entière.
L'année dernière, quand on vous a présenté ce projet, parce que vous avez ouvert ce mois de l'inclusion qui était une première édition pour la ville de Nevers, on va revenir d'ailleurs sur comment Denis Thuriot décrit cette ville, ville active et ville inclusive. Juste avant, on vous a présenté ce projet-là, quelle a été votre réaction et vos conseils aussi de personnes qui représentent l'ADAPI, une API, mais aussi de mamans?
En fait, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous avions ce projet de Nevers ville inclusive que nous avions présenté à l'époque au maire Monsieur Thuriot pour avoir une ville inclusive. Et après, ce mois de l'inclusion a été de façon très intéressante proposée. Donc évidemment, je ne pouvais être que pour. Je l'ai ouvert parce qu'on me l'a demandé. Parce que, en fait, mettre ma personne en avant n'a aucun intérêt. C'est pouvoir donner et faire avancer.
C'est une parole en avant, c'est pas forcément la personne.
Oui, mais on est souvent considéré comme une personne, vous savez bien, avec les médias. Donc c'est une parole, c'est une défense, et j'aimerais qu'après avoir posé un certain nombre de requêtes, de demandes au nom des personnes en situation de handicap, je me fasse dans l'ombre et que ce soit ces personnes-là qui soient en avant pour défendre eux-mêmes leurs droits, leur bonheur d'être accompagnés de façon différente et dans la bienveillance.
Nevers, ville active et inclusive, est-ce que c'est vrai ?
C'est en train de se mettre en place.
Ça évolue ?
Bien sûr, considérablement. Et c'est faire changer le regard sur le handicap qui finalement est le point essentiel de notre mission. Parce que qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas aussi ? C'est la peur. Et la peur est un frein considérable. Donc pour bloquer ces freins, en tous les cas pour les débloquer plutôt, il faut finalement permettre d'avoir des leviers qui soient cohérents. Et les leviers cohérents, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est-à-dire l'appropriation, l'acculturation. Et ça, quand on rencontre les gens et on leur dit que, voyez, chez nous, on a des personnes en situation de handicap, comme au restaurant qu'on a ouvert hier, mais on m'a dit, on ne voit pas qu'ils sont handicapés. Eh bien là, c'est un pas extraordinaire, mais on ne vous demande pas de voir qu'ils sont handicapés, parce que ce n'est pas que le fauteuil roulant, le handicap.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
Bon, moi, je suis en situation de handicap depuis très jeune. Ça ne se voit pas forcément. Bon, ça se voit là parce que j'ai une canne momentanée, mais sinon, ça ne se voit pas.
Oui, pour les personnes qui nous écoutent, ça ne se voit pas, du coup.
Ben non. Et du coup, c'est vachement utile de défendre les personnes en situation de handicap. Donc, c'est en situation de handicap dans sa globalité, mais pour une intégration et un changement de regard sur le handicap. Et moi, je pense que ce qui serait intéressant d'envisager à l'avenir, c'est-à-dire arrêter de dire « ils ne savent pas faire ça », mais voir les choses autrement, c'est-à-dire à l'envers, en disant « ils savent faire ça ». Et quand on aura compris ça, on aura compris beaucoup de choses, parce qu'ils savent faire beaucoup de choses.
Cette première édition, vous l'avez ouverte. Cette deuxième édition, on est en plein cœur, là, finalement, de cette deuxième édition du mois de l'inclusion. Oui. Comment vous l'avez vu évoluer, justement, à l'image de cette programmation, par exemple, qui a doublé, voire même triplé par rapport à l'année dernière, de propositions, d'activités, par de nouvelles associations, de nouveaux organismes aussi qui arrivent dans la boucle ?
Je le vois comme un événement très favorable parce que tout le monde s'est engagé dans ce mois de l'inclusion et qu'on a réussi à mettre autour de la table un certain nombre de personnes. Je rends hommage aux personnes de la mairie notamment qui ont effectivement été instigateurs de cette programmation avec Ali, avec le maire et Philippe, etc. et toutes ces personnes, mais aussi aux associations qui nous ont rejointes et à une personne que peu de gens connaissent peut-être, mais qui commencent à connaître davantage. C'est notre sous-préfète dédiée au handicap, Madame Magali Malherba, qui est une femme formidable et qui a un engagement profond, qui est finalement dédiée, qui a cette mission-là, le handicap est sa mission. Elle est sous-préfète sur Cône, elle a un engagement profond, elle nous suit depuis le début et elle fait avancer les choses de façon considérable. Donc elle a une écoute forte et je pense que quand on a une écoute forte et qu'on va réseauter un peu partout, on est plus fort tous ensemble. Il ne faut surtout pas mettre en exergue une seule association, mais être solidaire ensemble pour tous. On est au service de tous. Moi, je suis présidente de l'ADAPI, mais je suis au service de tous les enfants en situation de handicap. Je vais vous dire, on vient taper à ma porte, on n'est pas l'ADAPI, le problème, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pour tous, par tous et pour tous.
Et c'est ce qu'on retrouve au cœur de cette programmation, découvrez, expérimentez, échangez, apprenez. C'est ce qu'on retrouve, les maîtres mots de ce mois de l'inclusion, deuxième édition, ça a lieu depuis le 1er octobre jusqu'au 25 octobre. La participation de l'ADAPI dans ce mois de l'inclusion par les activités, les événements mis en place, les échanges aussi.
Alors, cette participation, elle est très intéressante parce qu'elle est mise entre les mains des professionnels. Mmh. Et ce sont les professionnels eux-mêmes, avec les personnes en situation de handicap, qui ont créé leurs ateliers.
C'est important d'ailleurs que ce soit, je vous coupe, mais que ce soit ces personnes en situation de handicap qui mettent en avant les ateliers, que ce soit de leur propre initiative, parce que ça rend l'activité encore plus concrète aussi.
C'est eux qui doivent être au cœur du changement. En fait, quand on parle de triple expertise à l'UNAPI, au national, on parle de triple expertise, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la triple expertise ? C'est la personne en situation de handicap au cœur des préoccupations, bien entendu, avec sa famille autour, les professionnels et la famille. Et tout ça crée une triple expertise. Ça veut dire que rien pour eux sans eux, rien sans en avoir échangé, et surtout, gardons en mémoire l'autodétermination. C'est-à-dire de cesser de dire, on va les placer là, on va leur faire faire ça. Ce pas des objets, ce pas des pions d'un échiquier, ce sont des personnes humaines, comme vous et moi. Quand j'entends encore, on l'a placé, ça me fend le cœur et j'en aurai encore les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'on ne place pas un enfant. C'est impossible. on accompagne un enfant,
ouais, bien sûr,
quel que soit son type de handicap. Et pour vous rappeler aussi que dernièrement, on vient de perdre notre personne la plus âgée, Janine, qui est une personne à laquelle je tenais beaucoup et que je connaissais très bien, qui est décédée à l'âge de 77 ans, qu'on a eu très longtemps dans un de nos établissements. Et Janine était non-verbale, donc elle ne parlait pas. Mais Janine savait s'exprimer parfaitement.
Oui, bien sûr, ouais, et par on les la gestes comprenait. Et par les mains. Exactement. Et bien sûr, ouais, tout à fait.
Donc
ouais.
Quand les gens extérieurs me disent « il ne parle pas », comme quand on peut en entendre parfois, on a pu entendre, parce qu'on travaille avec l'hôpital, notamment avec la charte Romain Jacob, nous dire « il ne parle pas », il ne parle pas, mais...
Au sens premier du terme, effectivement, mais il parle quand même par d'autres...
Il parle un langage que si vous n'êtes pas attentif, vous ne comprendrez pas.
Les yeux aussi, bien sûr. Ouais.
Mais évidemment, vous avez, votre analyse est parfaite. C'est-à-dire exactement le langage que vous devez écouter en prenant le temps d'écouter l'autre. Et ça, c'est une chose que notre société a un peu oubliée actuellement.
C'est ce que vous essayez de communiquer aussi à travers les activités que va mettre la DAPI en place. C'est des échanges aussi et se mettre à la place de ces personnes-là, oui, c'est important.
Exactement, se mettre à la place d'eux et puis écouter, être à l'écoute et cesser de vouloir décider pour eux. Moi, c'est surtout ça parce que décider pour eux, on va lui faire ça, la MDPH décide ça. Mais où est la place de la personne handicapée ou en situation de handicap au cœur de cette décision-là? Cette décision-là, elle doit être accompagnée. Et elle doit être mise en valeur, mais c'est pas aux autres de décider pour la personne en situation. Alors on me dit ils sont pas capables de décider, que nenni. Évidemment, ils ne peuvent pas tout décider avec le regard éclairé qui s'impose à tout un chacun, mais ils sont capables de savoir surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, ce qu'ils ne veulent pas, on n'a pas à leur imposer.
Cette parole qui sera donnée d'ailleurs à l'occasion, j'y repense, mais il y a les acteurs du film Un petit truc en plus qui seront présents normalement au ciné Mazarin. C'est un bel exemple aussi de mise en avant
et d'autodétermination.
Et de paroles données d'autodétermination, ouais, bien
vous
sûr.
Vous avez tout à fait raison. Et puis je me suis retirée un peu, je vais intervenir à l'hôpital parce que j'ai été invitée pour parler en tant que maman. Et c'est bien de sortir de son rôle de présidente et de parler en tant que maman pour savoir ce par quoi on est passé aussi, on est tous passés par des moments sacrément durs, et on a eu beaucoup de résilience vis-à-vis de ces moments-là, mais aussi on a eu beaucoup de chance de rencontrer des gens extraordinaires, et ce que je fais actuellement, c'est pour rendre hommage aux personnes qui m'ont accompagnée précédemment.
Ouais, ces aidants aussi, il faut les mettre en avant, c'est aussi l'objectif de ce mois de l'inclusion, c'est aussi de mettre en avant les aidants et de les remercier. Aussi.
Alors ce que vous dites est très juste, et puis les aidants, on est en train de s'en préoccuper un peu, il est temps, hein, parce que en tant que maman, moi je vais avoir 57 ans, j'ai un fils qui a 33 ans, j'ai tout arrêté, ma vie s'est arrêtée pour mon fils, parce qu'à l'époque, il a 33 ans, à l'époque, l'école, comme on parle d'école inclusive, où maintenant les parents disent on fait rien, mais je tiens à rappeler pour mémoire que moi c'était 2 heures par semaine, enfin 1 heure au début par semaine. Et qu'on ne pouvait pas l'accompagner, pas lui donner à manger, rien faire, etc. Et que finalement, cette démarche-là, les gens n'en ont pas conscience parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Alors moi, je reste encore la vieille personne, comme d'avant-guerre, voyez, qui se rappelle de ce qui a existé et des progrès qui ont été effectués. Ouais. Alors, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas parfait, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Et nous, en tant que femmes, enfin moi, j'avais un poste très intéressant avec un très beau salaire, j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. Et il n'y avait rien pour les aidants. Rien du tout, il n'y a toujours pas grand-chose, mais enfin, il y a quand même beaucoup plus que ce qu'il y avait. Hein.
C'est un petit peu autant pis pour toi, en fait, finalement.
Bah, démerde-toi, en fait, c'est dommage. Enfin, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps d'une voisine d'en face de chez moi, j'habite dans le centre-ville de Nevers, et quand mon époux a dit, mais mon épouse, elle ne peut pas se garer là, et en situation de handicap, et mon fils aussi, où elle a dit, c'est bien dommage pour eux. Eh bien, peut-être qu'elle écoute Bac FM de ses jours. C'est bien dommage pour eux. Oui, c'est vrai, c'est bien dommage pour nous. Mais vous ne pouvez pas savoir l'enrichissement intellectuel que ça apporte. Donc, je dis que c'est dommage de réagir comme ça. Parce que je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse et épanouie d'accompagner les gens que j'accompagne. Et de voir les enfants, et les jeunes et les moins jeunes, être heureux. Et de me dire que moi qui voulais tout d'enfants, qui en ai... eu un, qui en ait perdu un, ben j'en ai 500.
Pour cette 3e édition du mois de l'inclusion, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est quoi les désirs les plus profonds dans votre cœur de maman, de présidente de l'ADAPI, de présidente de l'UNAPI aussi, en fait? C'est quoi le désir le plus profond pour cette 3e édition?
Oh, c'est un désir inatteignable, mais ce désir, il arrivera peut-être dans quelques années. C'est de ne plus stigmatiser le handicap et de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un ministère du handicap pour accepter les gens quels qu'ils sont et de prévoir les choses en amont. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, on les prévoit pour tous. Mais le handicap, c'est-à-dire aussi la personne vulnérable, vulnérables. Et ça, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire les personnes âgées. Parce que finalement, quand on a un bébé, on crée des chaises hautes, n'est-ce pas ? Mmh. On crée des lits adaptés au bébé. Vous avez un nourrisson, vous ne le mettez pas dans un grand lit de 260. Enfin, à moins d'être un parent curieux. mais peut-être, pourquoi pas ? Enfin, je ne fais aucune stigmatisation par la même. Au demeurant, on a un bébé, on achète un lit bébé. On achète une chaise haute, une chaise de voiture, un rehausseur. Et pour les personnes âgées, ça me semble la même chose. Et pour les personnes handicapées, c'est exactement le même format. Donc finalement, cette pensée, elle devrait être intégrée depuis longtemps. C'est très singulier de devoir mettre ça en exergue maintenant, alors que c'est d'une logique fondamentale. Donc ça veut dire qu'on a une société qui n'est pas logique et qui n'est plus à l'écoute des autres.
Et finalement, le désir le plus profond, ce serait que cette troisième édition, elle n'existe pas, en fait, qu'elle n'ait plus besoin d'exister.
Oh, elle existera encore. Parce que le travail est encore long. Et c'est surtout l'appropriation. Mais vous avez raison, mais ça, c'est un désir, c'est un vœu pieux, on va dire. Mais c'est un vœu que je souhaite. Et en me disant que peut-être un jour, ça arrivera.
En attendant, on vous invite à vous intéresser à cette deuxième édition du mois de l'inclusion. Il a commencé le 1er octobre, il se termine le 25 octobre. Il y a énormément d'animations à découvrir, que ce soit des conférences, des tables rondes, des
sachez que journée se fera à l'IFA, à l'ADAPI, au centre de formation, avec une interview avec des personnes en situation de handicap pour voir comment les choses sont ressenties par les uns et les autres, parce qu'il faut écouter tout le monde finalement.
C'est de 10h à midi, c'est une conférence Si on parlait handicap.
Exactement.
Merci à vous d'avoir été
c'est
mon
invité.
C'est
moi qui vous remercie
infiniment. Corinne Charbonnier, merci.
Merci, au revoir.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop rock. Je vous souhaite une très belle soirée. Bien sûr, je vous invite à aller sur bacfm.fr pour retrouver tous les podcasts des émissions. Et puis, on se retrouve ici sur cette antenne demain à 10h30 pour Action, votre rendez-vous ciné en direct avec Laetitia. Rendez-vous demain matin à 10h30. Bonne soirée.